Chapitre 2. L'explosion du boulevard Suchet. La quatrième lettre mystérieuse. La quatrième de ces lettres que le diable mettait à la poste et que le diable distribuait, selon l'expression d'un journal. Qu'on se rappelle la surexcitation vraiment extraordinaire du public à l'approche de la nuit du 25 au 26 mai. Et quelque chose de nouveau portait au plus haut point ce bouillonnement de curiosité. Coup sur coup, on avait appris l'arrestation de Sauvran, la fuite de sa complice Florence Levasseur, secrétaire de Don Luis Perena, et la disparition inexplicable de ce Perena que l'on s'obstinait, et pour de bonnes raisons, à confondre avec Arsène Lupin. Sûr de la victoire désormais, tenant sous ses griffes presque tous les auteurs du drame, la police avait glissé peu à peu aux indiscrétions. Et par les détails révélés à tel ou tel journaliste, on connaissait les revirements de Don Luis. On soupçonnait son amour pour Florence Levasseur et la cause réelle de sa rébellion. Et l'on frémissait d'émotion au spectacle de cette lutte nouvelle engagée par ce stupéfiant personnage. Qu'allait-il faire ? S'il voulait soustraire aux poursuites celles qu'il aimait et libérer Marianne et Sauvran, il fallait qu'il intervînt au cours de cette nuit même, qu'il participât d'une manière ou d'une autre à l'événement qui se préparait et que, en arrêtant le messager invisible de la quatrième lettre ou en apportant des explications irrécusables, il démontrât l'innocence des trois complices. Bref, il fallait qu'il fût là. Quel élément d'intérêt ! Et puis, les nouvelles n'étaient pas bonnes concernant Marianne. Avec un acharnement inlassable, elle s'obstinait dans ses projets de suicide. On devait l'alimenter par des moyens artificiels. Et à l'infirmerie de Saint-Lazare, les docteurs ne dissimulaient pas leur inquiétude. Don Luis Perena arriverait-il à temps ? Et enfin, il y avait cette autre chose. La menace d'une explosion qui devait faire sauter l'hôtel de l'ingénieur Fauville 10 jours après la quatrième lettre. Menace vraiment impressionnante quand on songeait que l'ennemi n'avait jamais rien annoncé qui ne se produisit à l'heure dite. Et bien que l'on fût encore, du moins le croyait-on, à 10 jours de la catastrophe, cela donnait à toute l'affaire une allure de plus en plus sinistre. Aussi, ce soir-là, c'est une véritable multitude qui se porta, par la Muette et par Auteuil, vers le boulevard Suchet, et qui accourait non seulement de Paris, mais de la banlieue et de la province. Le spectacle passionnait. On voulait voir. On ne vit que de loin, car la police avait organisé des barrages à 100 mètres à droite et à gauche de l'hôtel, et refoulé dans les fossés des fortifications ceux qui avaient réussi à monter sur le talus opposé. Le ciel était orageux, couvert de nuages lourds que l'on apercevait par intervalles à la lueur d'une lune toute blanche. Il y avait des éclairs et des roulements lointains de tonnerre. On chantait. Des gamins poussaient des cris d'animaux. Sur les bancs et sur les trottoirs, on s'était installé par groupes. Et l'on mangeait et l'on buvait, tout en discutant. Une partie de la nuit s'écoula ainsi, sans que rien semblât répondre à l'attente de la foule. Et l'on se demandait avec une certaine lassitude si l'on ne ferait pas mieux de s'en aller, puisque, aussi bien, Sauvran étant emprisonné, il y avait beaucoup de chances pour que la quatrième lettre ne surgît pas comme les autres des ténèbres mystérieuses. Et pourtant, on ne s'en allait pas. Don Luis Perena allait venir. Depuis 10 heures du soir, le préfet de police et le secrétaire général de la préfecture, le chef de la sûreté, le sous-chef Weber, le brigadier Mazeroux et 2 agents se trouvaient réunis dans la grande salle où l'ingénieur Fauville avait été assassiné. 15 autres agents occupaient les autres pièces, tandis qu'une 20aine gardait les toits, la façade et le jardin. Une fois de plus, durant les heures de l'après-midi, on avait tout fouillé. sans plus de résultats du reste qu'auparavant. Mais il était décidé que tous les hommes veilleraient. Si la quatrième lettre était déposée quelque part, dans la grande salle, on voulait savoir, et l'on saurait qui l'a portée. Les miracles n'existent pas en matière de police. Vers minuit, M. Desmalions fit servir du café à ses agents. Lui-même en prit deux tasses, et il ne cessait de marcher d'un bout à l'autre de la pièce, de monter l'escalier qui conduisait à la mansarde, ou de parcourir l'antichambre et le vestibule. Préférant que la surveillance s'exerçât dans les conditions les plus favorables, il laissait toutes les portes ouvertes et toutes les lumières électriques allumées. Mazeroux objectait.
« Il faut de l'ombre pour que la lettre vienne. Rappelez-vous, monsieur le préfet, l'épreuve contraire a été déjà tentée et la lettre n'est pas venue.
Recommençons l'épreuve. »
Monsieur Desmalions, en réalité et malgré tout, craignait l'intervention de Don Luis et multipliait les mesures pour la rendre impossible.
Cependant, à mesure que la nuit avançait, l'impatience gagnait les esprits. Tous préparés à la lutte, les hommes souhaitaient l'occasion d'utiliser leur énergie exaspérée. Ils écoutaient et ils regardaient éperdument. Vers 1 heure, il y eut une alerte qui montra à quel point de tension nerveuse ils étaient arrivés. Un coup de feu partit du premier étage, puis des clameurs. Renseignement pris, c'étaient deux agents qui, se rencontrant au cours d'une ronde, ne se reconnurent pas et dont l'un tira en l'air pour avertir ses camarades. Dehors, cependant, il y avait moins de monde, ainsi que put le constater M. Desmalions lorsqu'il entr'ouvrit la porte du jardin. La consigne, moins sévère, laissait approcher les curieux, tout en défendant les abords du trottoir.
Heureusement que l'explosion n'est pas pour cette nuit, monsieur le préfet. Sans quoi, tous ces braves gens y passeraient tous comme nous.
Il n'y aura pas d'explosion dans 10 jours, et pas plus qu'il n'y a de lettres cette nuit. Du reste, ce jour-là, les ordres seront inflexibles.
Il était alors 2h10. À 2h25, comme le préfet de police allumait un cigare, le chef de la sûreté se risqua à rire.
« Et voilà une chose dont il faudra vous priver la prochaine fois, monsieur le préfet. Ce serait trop dangereux.
La prochaine fois, je ne perdrai pas mon temps à monter la garde. Car vraiment, je commence à croire que toute cette histoire de lettres est finie.
Est-ce qu'on sait ?»
Quelques minutes encore. Monsieur Desmalions s'était assis. Les autres avaient pris place également. Personne ne parlait plus. Et soudain, ils bondirent tous, d'un même mouvement et avec une même expression de surprise. Une sonnerie avait retenti. Une sonnerie ? Était-ce possible ? Tout de suite, ils virent d'où cela provenait.
Le téléphone !
Et c'était là un phénomène qui l'étonnait infiniment et qui étonna tous les assistants. Car on n'avait jamais songé que le téléphone fonctionnât encore à l'hôtel de l'ingénieur Fauville. Comme le préfet de police approchait de l'appareil, le timbre retentit de nouveau.
« C'est peut-être de la préfecture. Un avis urgent. Allô ? Qu'est-ce que vous demandez ?»
Une voix lui répondit, si lointaine et si faible, qu'il ne perçut que des sons incohérents.
« Mais parlez donc plus haut. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Qui est à l'appareil ?»
La voix bredouilla quelques syllabes qui parurent le stupéfier.
« Allô ? Je ne comprends pas. Veuillez répéter. Allô ? Qui est à l'appareil ?
Don Luis Perena.
Hein ? Quoi ? Don Luis Perena ? »
Il fut sur le point de raccrocher le récepteur.
Une fumisterie ! Quelque farceur qui se divertit !
Pourtant, malgré lui, il reprit la communication.
Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Vous êtes Don Luis Perena?
Oui.
Que demandez-vous?
Quelle heure est-il?
Et quelle heure est-il?
Le préfet eut un geste de colère, non pas tant à cause de cette question absurde que parce qu'il avait reconnu, réellement, sans erreur possible, la voix même de Don Luis Perena.
Et après, quelle est cette nouvelle histoire? Où êtes-vous?
Dans mon hôtel, au-dessus du rideau de fer, dans le plafond de mon cabinet de travail.
Dans le plafond?
Oui, et quelque peu esquinté, je l'avoue.
On va vous secourir.
Monsieur Desmalions commençait à s'amuser.
Plus tard, monsieur le préfet. Répondez-moi d'abord, vite, sinon je ne sais si j'aurai la force. Quelle heure est-il?
Ah ça, mais...
Je vous en prie.
3h-20.
3h-20?
On eût dit que Don Luis trouvait une force imprévue dans un accès brusque de frayeur. Sa voix défaillante prit de l'accent et, tour à tour, impérieux, désespéré, suppliant, plein d'une conviction qu'il cherchait à imposer, il ordonna.
« Allez-vous-en, monsieur le préfet, et partez tous. Quittez l'hôtel. À 3h, l'hôtel sautera. Mais oui, je vous le jure, 10 jours après la 4e lettre, c'est maintenant, puisque la remise des lettres a subi un retard de 10 jours. C'est maintenant, à 3h du matin. Rappelez-vous ce qu'il y avait d'inscrit sur la feuille que le sous-chef Weber a trouvé ce matin. L'explosion est indépendante des lettres. Elle aura lieu à 3h du matin. À 3h du matin, aujourd'hui, monsieur le préfet. Oh, partez, je vous en conjure. Que personne ne reste dans l'hôtel. Il faut me croire. Je connais toute la vérité sur l'affaire. Et rien n'empêchera que la menace ne s'exécute. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Oh, c'est horrible. Je sens que vous ne me croyez pas. Et je n'ai plus de force. Allez-vous-en, tous!
Il dit encore plusieurs mots que M. Desmalions ne discerna point. Puis la communication s'interrompit. Et bien que le préfet entendît des cris, il lui sembla que ces cris étaient loin, comme si l'appareil n'eût plus été à la portée de la bouche qui les articulait.
« Messieurs, il est 3h-17. Dans 17 minutes, nous allons sauter. Ainsi, du moins, l'affirme notre bon ami Don Luis Perena. »
Malgré les plaisanteries qui accueillirent cette menace, il y eut comme un sentiment de gêne.
« C'est bien Don Luis, monsieur le préfet ?»« Et en personne. » »« Il s'est erré dans quelques trous de son hôtel, au-dessus de son cabinet de travail, et les privations, la fatigue, semblent l'avoir un peu détraqué. Mazrou, allez donc le prendre au gîte. Si, toutefois, il n'y a pas là quelque nouveau tour de sa part. Vous avez le mandat ?»
Le brigadier Mazrou s'approcha de M. Desmalions. Il était blême.
« Monsieur le préfet, il vous a dit que nous allions sauter ?»«
Ma foi, oui. Il se base sur cette note que Weber a trouvée dans un volume de Shakespeare. L'explosion doit avoir lieu cette nuit. »«
À 3h du matin ?»«
À 3h du matin, c'est-à-dire... » dans un petit quart d'heure.
Et vous restez, monsieur le préfet?
Vous en avez de bonnes, brigadier. Croyez-vous que nous allons obéir aux lubies de ce monsieur?
Mazrou chancela, hésita, mais malgré toute sa déférence, il fut incapable de se contenir.
Mais monsieur le préfet, c'est pas une lubie. J'ai travaillé avec Don Luis. Je connais l'homme. S'il annonce une chose, c'est qu'il a ses raisons.
De mauvaises raisons.
Mais non, hein, monsieur le préfet, et je vous jure qu'il faut l'écouter. À 3 heures du matin, il l'a dit, l'hôtel sautera. Et nous avons quelques minutes. Oh, partons, je vous en prie, monsieur le préfet.
C'est-à-dire, fuyons ?
Oh, mais c'est pas fuir, monsieur le préfet. C'est une simple précaution. On peut pourtant pas risquer. Eh bien, vous-même, monsieur le préfet.
Assez.
Mais monsieur le préfet, puisque Don Luis a dit
assez. Si vous avez peur, profitez de l'ordre que je vous ai donné et filez chez Don Luis.
Masrou réunit les talons et d'un geste d'ancien soldat fit le salut militaire.
Je reste ici, monsieur le préfet.
Et pivotant sur lui-même, il alla reprendre sa place à l'écart. Il y eut un silence. Monsieur Desmalions se mit à marcher dans la pièce, les mains au dos. Puis il s'adressa au chef de la sûreté et au secrétaire général.
« Enfin, vous êtes de mon avis, j'espère. »
« Mais oui, monsieur le préfet. »«
N'est-ce pas ? D'abord, cette hypothèse ne repose sur rien de sérieux. Et ensuite, quoi ? Nous sommes gardés. Les bombes ne vous dégringolent pas comme ça sur la tête. Il faut quelqu'un qui les jette. Et comment ? Et par où ?
Par le même chemin que les lettres.
Hein ? Alors vous admettez ?
Le secrétaire général ne répondit pas. Et M. Desmalions n'acheva pas sa phrase.
Lui-même, il éprouvait, comme les autres, cette impression de malaise qui, peu à peu, à mesure que les secondes s'écoulaient, devenait douloureuse, presque intolérable. 3 heures du matin. Ces quelques mots revenaient sans cesse à son esprit. 2 fois, il consulta sa montre. Il y avait encore 12 minutes. Il y en avait 10. Est-ce que vraiment, par le simple effet d'une volonté infernale et toute puissante, est-ce que l'hôtel allait sauter ? Monsieur Desmalions frappait du pied.
« C'est idiot ! C'est idiot !»
Mais ayant regardé ses compagnons, il fut stupéfait de voir la contraction de leur visage, et il sentit dans sa poitrine son cœur qui se serrait étrangement. Il n'avait pas peur, certes, non. Et les autres, pas plus que lui. Mais tous, depuis les chefs jusqu'aux simples agents, ils subissaient l'ascendant de ce Don Luis Perena qu'ils avaient vu accomplir des choses si extraordinaires et se diriger dans cette ténébreuse aventure avec une habileté si prodigieuse. Consciemment ou à leur insu, qu'ils le voulussent ou non, ils songeaient à lui comme à un être exceptionnel, doué de facultés spéciales, un être auquel il aurait été impossible de songer sans évoquer par là même le stupéfiant Arsène Lupin, avec sa légende d'audace, de génie et de clairvoyance surhumaine. Et c'était Lupin qui leur disait de fuir. Poursuivi, traqué, il se livrait lui-même pour les avertir du danger. Et ce danger était immédiat. Encore 7 minutes. Encore 6. Et l'hôtel sauterait. Très simplement, Masrou se mit à genoux, fit le signe de la croix et récita des prières à voix basse. Le geste était si impressionnant que le secrétaire général et le chef de la sûreté esquissèrent un mouvement vers le préfet de police. Il détourna la tête et continua sa promenade de long en large. Mais l'angoisse montait en lui. Et les paroles entendues au téléphone retentissaient à son oreille. Et toute l'autorité de Perena, sa prière ardente, sa conviction éperdue, tout cela le bouleversait. Il avait vu Perena à l'œuvre. On n'avait pas le droit, dans une pareille circonstance, de négliger l'avertissement d'un tel individu.
« Allons-nous-en !»
Ces mots furent prononcés de la façon la plus calme, et l'on eût cru vraiment que ceux qui les entendirent
ne les considérait que comme la conclusion judicieuse d'un état de choses très ordinaire. Ils s'en allèrent sans hâte et sans désordre, non pas en fugitif, mais en hommes qui obéissent volontairement à un devoir de prudence. Au seuil de la porte, ils s'effacèrent devant le préfet de police.
« Non, passez, je vous suis. »
Il quitta la pièce le dernier, laissant l'électricité allumée. Dans le vestibule, il pria le chef de la sûreté de donner un coup de sifflet. Lorsque tous les agents furent là, il les fit sortir de l'hôtel, ainsi que le concierge, et referma la porte sur lui. Il appela alors les agents qui surveillaient le boulevard.
« Que tout le monde s'éloigne et repoussez la foule le plus loin possible. Et rapidement, n'est-ce pas? D'ici un quart d'heure, nous rentrerons dans l'hôtel. »«
Et vous, monsieur le préfet? J'espère que vous ne restez pas. » »«
Non, non, ma foi, non. Si tant est que j'écoute le conseil de notre ami Perenna, je dois marcher jusqu'au bout. »«
C'est qu'il n'y a plus que 2 minutes. »
Notre ami Perenna a parlé de 3 heures, et non de 3h-2. Donc... »
Il traversa le boulevard, accompagné du chef de la sûreté, de son secrétaire général et de Mazeroux. Il escalada le talus au...
« Il faudrait peut-être se baisser. »«
Baissons-nous. Mais en vérité, s'il n'y a pas d'explosion, je me flanque une balle dans la tête. » Je ne pourrai pas vivre après m'être ainsi couvert de ridicule.
Il y aura une explosion, monsieur le préfet.
Faut-il que vous ayez confiance dans notre ami Don Luis?
Vous avez la même confiance, monsieur le préfet.
Ils se turent, crispés par l'attente et luttant contre l'anxiété qui les étreignait. Une à une, ils comptaient les secondes au battement de leur cœur. C'était interminable. 3 heures sonnèrent quelque part.
vous voyez, il n'y aura rien. Ah, Dieu merci. C'est idiot, comme si pareille chose pouvait se concevoir.
Préfet de police s'élança.
En avant! Qu'on téléphone! Vite! Les pompes en cas d'incendie!
Il empoigna Mazeroux par le bras.
Courez jusqu'à mon auto, à 100 mètres de là. Faites-vous conduire chez Don Luis et si vous le trouvez, délivrez-le et amenez-le ici.
Je le mets sous mandat, monsieur le préfet.
Sous mandat? Mais vous êtes fou!
Si le sous-chef Weber.
Ah, Weber nous fichera la paix. Je me charge de lui. Et filez.
Cette mission, Mazeroux l'accomplit, non pas avec plus de hâte que s'il se fût agi d'arrêter Don Luis, car c'était un homme de devoir, mais avec une joie singulière. Le combat qu'il avait été obligé de poursuivre contre celui qu'il appelait toujours le patron l'avait bien souvent désolé jusqu'à lui tirer les larmes des yeux. Cette fois, il arrivait en auxiliaire, peut-être en sauveur. L'après-midi, renonçant sur les ordres de M. Desmalions à fouiller davantage l'hôtel, puisque l'évasion de Don Luis semblait certaine, le sous-chef n'avait laissé que 3 hommes de faction. Mazeroux les trouva dans une pièce du rez-de-chaussée, où ils veillaient tour à tour. Interrogés, ils affirmèrent qu'ils n'avaient pas entendu le moindre bruit. Il monta seul, pour que son entrevue avec le patron n'eût pas de témoin, traversa le salon et pénétra dans le cabinet de travail. Là, une inquiétude l'assaillit, car, au premier coup d'œil, après avoir allumé une lampe électrique, il ne vit rien.
« Patron ! Patron ! Où donc êtes-vous ? »
Aucune réponse.
« Et pourtant, s'il a téléphoné, ce ne peut être que d'ici. »
En effet, il constata de loin que le récepteur était décroché, et s'étant avancé vers la cabine, il heurta des morceaux de briques et de plâtre qui jonchaient le tapis. Alors il fit aussi la lumière dans cette cabine, et il aperçut au-dessus de lui un bras qui pendait du plafond. Tout autour de ce bras, le plafond était éventré. Cependant, l'épaule n'avait pu passer et on ne discernait pas la tête du captif. Masrou sauta sur une chaise et atteignit la main qu'il palpa et dont le tiède contact le rassura.
« C'est toi, Masrou ?»
La voix lui parut très lointaine.
« Oui, c'est moi-même. Vous n'êtes pas blessé, hein ? Rien de grave ?»«
Non, étourdi seulement. » Et assez faiblard. Écoute.
J'écoute.
Ouvre le second tiroir de gauche de mon bureau. Tu trouveras...
Quoi, patron?
Un vieux bout de chocolat.
Mais...
Va toujours, Alexandre. J'ai une sacrée faim.
De fait, après un instant, Don Luis reprit, d'un ton plus gaillard.
Ah, ça va mieux. Je puis attendre. Cours à la cuisine et rapporte-moi du pain et de l'eau.
Je reviens, patron.
Pas directement. Reviens par la chambre de Florence Levasseur et par le passage secret jusqu'à l'échelle qui mène à la trappe supérieure.
Et il lui indiqua le moyen de faire basculer la pierre et de s'introduire dans la sorte de canal où il avait cru trouver une fin si tragique. En 10 minutes, ce fut chose exécutée. Masrou déblayait l'orifice, parvenait à saisir Don Luis par les jambes et le tirait hors de sa tanière.
« Eh bien vrai, patron, en voilà une position. Et comment avez-vous fait votre compte ?
Eh ben oui, je vois ça d'ici. Vous avez creusé devant vous, à plat ventre, et creusé encore, et plus d'un mètre. Il vous en a fallu du courage, et avec un estomac vide. »
Lorsque Don Luis fut installé dans sa chambre et qu'il eut avalé 2 ou 3 morceaux de pain et bu en conséquence, il raconta.
« Un rude courage, mon vieux. Un bigre. Quand les idées tournent et qu'on n'a pas son cerveau à soi, parole d'honneur, on ne demande qu'à se laisser aller. Et surtout, l'air manquait. Impossible de respirer. Je creusais pourtant, ainsi que tu l'as vu. Je creusais... à moitié endormi, comme dans un cauchemar. Tiens, regarde, j'ai les doigts en marmelade. Seulement voilà, je pensais à cette sacrée histoire de l'explosion. Et coûte que coûte, je voulais vous avertir. Et je creusais mon tunnel. Oh, quel métier! Et puis, v'lon, j'ai senti le vide. Ma main passée. Et puis le bras. Où étais-je? Parbleu! Au-dessus du téléphone. Et je m'en rendis compte aussitôt, en tâtant le mur et en rencontrant les fils. Alors, ce fut tout un manège, qui dura bien 1 demi-heure pour atteindre l'appareil. Je n'avais pas le bras assez long. C'est avec une ficelle et un nœud coulant que je réussis à pêcher le récepteur et à le tenir près de ma bouche, ou du moins à 30 centimètres de ma bouche. Et je criais pour qu'on entendît. Et je gueulais. Je souffrais. Et puis, à la fin, ma ficelle a craqué. Et puis, j'étais à bout de force. D'ailleurs, quoi ? Vous étiez prévenu. C'est à vous de vous débrouiller.
Il leva la tête vers Masrou et lui demanda, comme s'il n'eût pas douté de la réponse.
« L'explosion a eu lieu, n'est-ce pas ?
Oui, patron. »
« À 3 heures précises ?»
Oui.
Et bien entendu, Monsieur Desmalions avait fait évacuer l'hôtel.
Oui.
À la dernière minute?
À la dernière minute.
Je pensais bien qu'il se débattrait et qu'il ne céderait qu'au moment suprême. Tu as dû passer là un mauvais quart d'heure, mon pauvre Masrou. Car évidemment, tu m'as donné raison du premier coup, toi.
Il ne cessait pas de manger. Tout en parlant. Et chaque bouchée semblait lui rendre un peu de son animation ordinaire.
Oh, drôle de chose que la faim. Ce que ça vous fait déménager. Et il faudra pourtant que je m'habitue à cette privation-là.
En tout cas, patron, on dirait vraiment pas que vous avez jeûné pendant près de 48 heures.
Bon, le coffre est bon. Et il y a des réserves. Bon, dans une demi-heure, il n'y paraîtra plus. Le temps de prendre un bain et de me raser.
Sa toilette achevée, il s'attabla devant des œufs et de la viande froide que lui avait préparé Mazrou. Puis se leva.
Et maintenant, en route.
Mais rien ne vous presse, patron. Et couchez-vous donc quelques heures, le préfet attendra.
Mais tu es fou.
Et Marie-Anne Fauville?
Madame Fauville?
Et parbleu,
crois-tu que je vais la laisser en prison, ainsi que Sauvran? Pas une seconde à perdre, mon vieux.
Tout en se disant que le patron n'avait pas encore bien sa tête à lui, délivrer Marie-Anne et Sauvran, comme ça, d'un coup de baguette, non, mais tout de même, il allait un peu loin. Mazrou conduisait, jusqu'à l'automobile du préfet, un Perenna de nouveau joyeux, fringant, aussi reposé que s'il fût sorti de son lit. Très flatteur pour mon amour-propre, très flatteur cette hésitation du préfet après mon avertissement téléphonique et son obéissance à l'instant décisif. Faut-il que je les tienne en main, tous ces messieurs-là, pour qu'ils se tirent des pattes sur un signe de Bibi?
Attention, messieurs, qu'on leur téléphone du fond de l'enfer. Attention, à 3 heures, bombe!
Mais non!
Mais si! Comment le savez-vous?
Et parce que je le sais.
Mais la preuve!
La preuve, c'est que je le dis.
Oh, alors du moment que vous le dites.
Et à 3h05, on s'éloigne.
Ah, si je n'étais pas pétri de modestie. Ils arrivèrent au boulevard Suchet, où la foule était si pressée qu'ils durent descendre d'automobile. Mazrou franchit le cordon d'agents qui défendait les abords de l'hôtel et il conduisit Don Luis sur le talus opposé.
Attendez-moi là, patron. Je vais avertir le préfet de police.
En face, sous le ciel pâle du matin, où traînaient encore des nuages noirs, Don Luis vit les dégâts causés par l'explosion. Ils étaient en apparence bien moins considérables qu'il ne le croyait. Malgré l'écroulement de quelques plafonds, dont on apercevait les décombres à travers le trou béant des fenêtres, l'hôtel restait debout. Même le pavillon de l'ingénieur Fauville semblait avoir un peu souffert. Et chose bizarre, l'électricité que le préfet de police avait laissée allumée avant son départ ne s'était pas éteinte. Dans le jardin ou sur la chaussée, gisait un amoncellement de meubles autour duquel veillaient des soldats et des agents.
Suivez-moi, patron!
Mazrou était revenu le chercher et le diriger vers le bureau de l'ingénieur. Une partie du plancher avait été démolie. Les murs extérieurs de gauche, du côté de l'antichambre, étaient crevés. Et pour soutenir le plafond, deux ouvriers dressaient des poutres à portée d'un chantier voisin. Mais, somme toute, l'explosion n'avait pas eu les résultats qu'avait dû escompter celui qui l'avait préparé. Monsieur Desmalions se trouvait là, ainsi que tous ceux qui avaient passé la nuit dans cette pièce et plusieurs personnages importants du parquet de la police. Seul le sous-chef Weber venait de partir. Il n'avait pas voulu se rencontrer avec son ennemi. La présence de Don Luis suscita une vive émotion. Le préfet s'avança aussitôt à sa rencontre.
« Tous nos remerciements, monsieur. Votre clairvoyance est au-dessus de tout éloge. Vous nous avez sauvé la vie. Ces messieurs et moi, nous tenons à le déclarer de la façon la plus formelle. Pour ma part, c'est la seconde fois. »
Il est un moyen très simple de me remercier, monsieur le préfet. C'est de me permettre d'aller jusqu'au bout de ma tâche.
De votre tâche?
Oui, monsieur le préfet. Mon acte de cette nuit n'en est que le début. L'achèvement, c'est la libération de Marie-Anne Fauville et de Gaston Sauvran. Monsieur Desmalions sourit.
Oh oh!
Est-ce trop demandé, monsieur le préfet?
On peut toujours demander, mais encore faut-il que la demande soit raisonnable. Or, il ne dépend pas de moi que ces personnes soient innocentes.
Non, mais il dépend de vous, monsieur le préfet, que que vous les préveniez si je vous démontre leur innocence.
Ma foi, oui, si vous me le démontrez d'une façon irréfutable.
Irréfutable. Malgré tout, et plus encore que les autres fois, l'assurance de Don Luis impressionnait M. Desmalions.
Les résultats de l'enquête sommaire que nous avons faite vous aideront peut-être. Et ainsi, nous avons acquis la certitude que la bombe a été placée à l'entrée de cette antichambre, et tout probablement sous les lames même du parquet.
Inutile, monsieur le préfet. Ce ne sont là que des détails secondaires.
L'essentiel maintenant, c'est que vous connaissiez la vérité totale, et non point seulement par des mots.
Le préfet s'était rapproché de lui. Les magistrats et les agents l'entouraient. On épiait ses paroles et ses gestes avec une impatience fiévreuse. Était-ce possible que cette vérité, si lointaine encore et si confuse, malgré toute l'importance que l'on attachait aux arrestations déjà opérées, puît enfin être connue?
L'heure était grave. Les cœurs se serraient. L'annonce de l'explosion faite par Don Luis donnait à ses prédictions une valeur de chose accomplie, et ceux qu'il avait sauvés de la terrible catastrophe n'étaient pas loin d'admettre comme des réalités les affirmations les plus invraisemblables qu'un pareil homme pouvait énoncer.
Monsieur le préfet, vous avez attendu vainement cette nuit que la quatrième des lettres mystérieuses fût introduite ici. C'est la venue de cette quatrième lettre à laquelle, par un miracle imprévu du hasard, il va nous être permis d'assister. Vous saurez alors que c'est la même main qui a commis tous les crimes. Et vous saurez qui les a commis.
Et s'adressant à Mazerou,
« Brigadier, ayez l'obligeance de faire, autant que possible, l'obscurité dans cette pièce. » À défaut des volets, tirez les rideaux sur les fenêtres et ramenez les battants de la porte. Monsieur le préfet, est-ce fortuitement que l'électricité est allumée ici?
Fortuitement. On va l'éteindre.
Un instant. Quelqu'un de vous, messieurs, a-t-il une lanterne de poche? Ou bien, non, c'est inutile. Voici qui fera l'affaire.
Dans un candélabre, il y avait une bougie. Il la prit et l'alluma. Puis il tourna l'interrupteur. Ce fut alors une demi-obscurité où la flamme de la bougie, secouée par les courants d'air, vacillait. Don Luis la garantit avec la paume de la main et s'avança vers la table.
« Je ne pense pas qu'il nous faille attendre. Selon mes prévisions, il ne se passera que quelques secondes avant que les faits parlent d'eux-mêmes, et mieux que je ne pourrais le faire. »
Ces quelques secondes, pendant lesquelles personne ne rompit le silence, furent de celles que l'on n'oublie pas. M. Desmalions a raconté depuis, dans une interview où il se moque de lui-même avec beaucoup de finesse, que son cerveau, surexcité par les fatigues de la nuit et par cette mise en scène, imaginait les événements les plus insolites, comme une invasion de l'hôtel et une attaque à main armée, ou comme l'apparition d'esprits et de fantômes.
Il eut cependant la curiosité, a-t-il dit, d'observer Don Luis. Assis sur le rebord de la table, la tête un peu renversée, les yeux distraits, Don Luis mangeait un morceau de pain et croquait une tablette de chocolat. Il semblait affamé, mais fort tranquille. Les autres gardaient cette attitude crispée que l'on a dans les moments de grand effort physique. Une sorte de grimace contractait leur visage. Autant que par l'approche de ce qui allait se produire, ils étaient obsédés par le souvenir de l'explosion. Sur les murs, la flamme dessinait des ombres. Il s'écoula plus de secondes que ne l'avait dit Don Luis Perena. 30 ou 40 peut-être, qui leur parurent interminables. Puis, Perena leva un peu la bougie qu'il tenait.
« Voici !»
Presque en même temps que lui, d'ailleurs, tous,
ils avaient vu. Ils le voyaient. Une lettre descendait du plafond. Elle tournoyait lentement comme la feuille qui tombe d'un arbre et que le vent ne secoue pas. Elle frôla Don Luis et vint se poser sur le parquet, entre deux pieds de la table. Don Luis répéta, en ramassant le papier et en le tendant à M. Desmalions, « Voici, monsieur le préfet, voici la quatrième lettre qui avait été annoncée pour cette nuit.